Radio Barque, donc notre troisième partie. Avant, alors très vite, avant de retrouver notre invité Bertrand Malquier, juste une petite précision, la sens commun,
ah oui, non,
un lapsus.
Un lapsus, oui, un lapsus qui va m'être reproché, quoi. J'ai cité sens commun pour parler effectivement de l'association PSPC Vert, alors qu'il s'agit d'un arbre en commun, évidemment,
oui,
alors
voilà.
que ses représentants m'excusent. Hein, vraiment,
c'est rectifié.
C'est tout à fait involontaire.
Bertrand Malquier, donc, vous êtes premier adjoint à la mairie de Narbonne depuis la dernière élection 2014. Vous avez, il y a quelques jours à peine, présenté, de par peut-être votre fonction de premier adjoint ou pas, je ne sais pas, le DOB sur lequel nous avons tout à l'heure, et Michel
oui,
s'est étendu
hein.
à expliquer. D'abord, oui, première question, est-ce que c'était pas habituel? Pourquoi avez-vous assumé ce rôle à ce conseil municipal?
Alors, et merci de m'accueillir dans votre émission. Jeudi dernier, il y avait effectivement le conseil municipal et au programme le débat d'orientation budgétaire qui, normalement, est présenté par l'adjointe aux finances, Emma Bellotti-Lascombe, et exceptionnellement par ses fonctions, ses obligations professionnelles. Elle était absente mercredi et jeudi de Narbonne, et donc j'ai suppléé, Didier Mouly m'a demandé de bien vouloir présenter ce débat d'orientation budgétaire.
Oui, donc ça n'était qu'une coïncidence.
Une coïncidence.
Voilà. Cela étant dit, ce débat d'orientation budgétaire s'est passé de façon différente puisqu'il a été anticipé, avancé. Alors expliquez.
Alors au niveau du calendrier, on est revenu sur une norme qui existe dans quasiment toutes les grandes communes de France, c'est-à-dire coller à l'année civile, faire un débat d'orientation budgétaire qui précède obligatoirement le vote du budget primitif. Et nous voulons avoir un exercice complet qui démarre au 1er janvier jusqu'au 31 décembre, avec un compte administratif qui est présenté très tôt dans l'année civile. Donc nous avons voulu nous caler, comme c'était le cas à Narbonne il y a quelques années déjà, revenir sur un calendrier qui nous paraissait plus normal. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, nous estimons qu'il faut commencer l'année dès les premiers jours. Il ne faut pas attendre le mois de mars ou le mois d'avril. Alors effectivement, on peut voter par anticipation des déblocages de budget, mais ce n'est pas la norme. Et nous bloquons tout un tas d'investissements, même dans le budget de fonctionnement, je pense aux associations en particulier, en déclenchant tardivement le budget primitif. Donc nous avons voulu nous remettre en harmonie avec le calendrier civil.
Alors ce n'est pas une manœuvre politicienne comme l'opposition vous l'a reproché?
Les oppositions voient toujours le mal partout, mais loin de nous cette idée-là. On n'est pas dans ce débat politicien. On a vraiment un sens de la gestion. C'est notre marque de fabrique et nous le confirmons en alignant ce budget sur l'année civile.
Alors ça implique aussi donc que le compte administratif soit avancé par rapport à l'habitude.
Nous l'espérons. Ça dépend du compte de gestion, du travail du trésorier. On espère le faire le plus tôt possible dans le premier trimestre 2020.
Alors Bertrand Malquier, donc je le disais, vous êtes premier adjoint. Rappelons qu'un premier adjoint dans une mairie, c'est un rôle important parce que c'est celui qui peut à un moment suppléer au maire, pour tout un tas de raisons d'ailleurs bonnes ou mauvaises. Mais depuis un certain temps, il y a des rumeurs qui courent dans le monde, dans le landerneau politique narbonnais, qui font que si Nouveau-Narbonne, alors, dont on sait, c'est clair, ça a été dit et redit, Didier Mouly a dit qu'il se représentera à la mairie. J'imagine que vous, dans son sillage, vous serez également à la position du premier adjoint. Que si vous remportiez la mairie une seconde fois, cette fois-ci au niveau de l'agglo, vous seriez peut-être plus partant, en tout cas plus présent, et surtout vous seriez mieux préparé à la conquête de cette agglomération, et que vous, éventuellement, Bertrand Malquier, seriez l'homme de la situation.
Je fais pas une fixation sur ce rôle de président. Avec Didier Mouly, alors je suis son premier adjoint depuis 2014, je serai son premier soutien pour les élections municipales, mais nous voulons l'un comme l'autre que l'agglomération change. Nous voulons la préparer dès aujourd'hui pour pas avoir de surprise au mois de mars. Nous voulons changer son mode de gouvernance, nous voulons changer ses statuts, sa façon de travailler et sa structure même. Nous, le rôle de président mais comme ceux du bureau exécutif, c'est d'impulser une politique. On se veut résolument tourner vers le développement économique et faire des actions. On a des propositions concrètes à faire. Nous avons rencontré, soit l'un, soit l'autre, des candidats, des élus sortant au territoire de l'agglomération, sur le territoire de l'agglomération. Et nous voulons leur faire des propositions concrètes. Ces propositions concrètes, déjà sur le mode de gouvernance. Avec les échanges que nous avons eus avec les acteurs du territoire, on pense que la meilleure des gouvernances serait une répartition tripartite des vice-présidences.
C'est-à-dire
4 vice-présidents qui sont issus du littoral, 4 vice-présidents qui sont issus de la ruralité et 4 vice-présidents sur la ville-centre. Limiter à 12 vice-présidences la gouvernance de l'agglomération et ensuite avoir des conseillers communautaires délégués sur des domaines de compétences. Il faut aussi arrêter de cumuler des mandats, d'avoir des vice-présidences qui sont des vice-présidences de titre et non de fonction, des vice-présidents qui ne sont pas réellement dans leur fonction. On veut des vice-présidents engagés qui partagent cette vision du territoire et qui soient proactifs dans la gouvernance de l'agglomération.
Alors on sait, oui, il faut le redire parce que tout le monde peut-être ne le sait pas, pour pouvoir postuler à la présidence, il faut d'abord être conseiller communautaire. Et pour être conseiller communautaire, il faut d'abord être conseiller municipal élu et désigné particulièrement sur les listes électorales. Il n'y a pas une élection directe à l'agglo, ce qui pose aussi un certain problème et qui crée un certain flou, finalement.
Il y a une méconnaissance des électeurs, de la population sur ce double fonctionnement, sur cette double élection, ce fléchage des conseillers communautaires sur l'agglomération. On en revient à votre question. J'ai une volonté de participer au développement de cette agglomération, d'être partie prenante. J'estime avoir des compétences, en particulier en matière économique. Je suis chef d'entreprise. J'aime mon territoire. J'ai une vision pour ce territoire. Par exemple, sur le développement économique, aujourd'hui, nous sommes... Pour reprendre ce que disait Michel Santo tout à l'heure sur la compétence économique que le candidat au municipal revendique, il n'y a rien pour démarcher des entreprises à l'extérieur, aucun levier fiscaux mis en place. On voudrait créer un centre opérationnel de développement économique pour aller démarcher, non pas attendre. Aujourd'hui, on attend passivement l'entreprise qui démarche l'agglomération. Nous voulons aller à la rencontre de l'entreprise, proposer une fiscalité dédiée avec des avantages pour qu'elle choisisse notre territoire et véritablement être proactif dans cette démarche.
Alors là, voilà un projet. Je pensais y revenir un petit peu plus tard, mais en voici un qui est ébauché. Et alors, nous avions reçu la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, Monsieur Perea, donc Alain Perea, le député, qui s'intéresse aussi évidemment aux élections municipales, mais qui, à propos de vous, sans vous nommer directement, disait ceci, je cite... Quand je vois l'équipe actuelle en place qui est déjà en train de dire « Si nous regagnons la mairie, nous mettrons telle personne à la tête de l'agglomération », mais pendant 6 ans, dit Monsieur Perea, cette personne n'a rien fait pour l'intercommunalité, elle ne porte aucun projet pour l'intercommunalité. Donc là, apparemment, il y a des projets que vous avez déjà plus ou moins mûris. Pourquoi ces projets ne sont-ils pas apparus pendant le précédent mandat, par exemple ?
C'est extraordinaire. Il faut rester sérieux. Soit Monsieur le député fait preuve d'amnésie politique, soit, et je le crois plus sérieusement, de mauvaise foi. Je le rappelle parce que ce n'est pas un personnage neuf de la scène politique, Monsieur Perea. Ça a été un directeur du Civom Narmonne Rural. Ça a été un directeur du syndicat du schéma de cohérence territoriale. Ça a été le directeur général des services de la ville sous l'ère Bascou. Ça a été un directeur général adjoint à l'agglomération. Ça a été un directeur du parc naturel régional de la Narbonnaise. Ça a été surtout le vice-président à l'aménagement du territoire et au développement économique. Qu'a fait monsieur le député ? pendant toute cette période. Rien. Pour que vos auditeurs soient clairement informés, voilà comment se passe la gouvernance de l'agglomération. Le samedi matin dans l'année, il y a ce qu'ils appellent un séminaire d'orientation et de stratégie budgétaire. Les seuls invités, ce sont ceux qui s'engagent à voter favorablement le budget qu'ils ne connaissent pas. Nous ne sommes pas dans ce moule-là. Nous voulons étudier les chiffres, proposer, les amender et ensuite voter. Nous n'avons jamais été invités à ces séminaires stratégiques. Comment voulez-vous faire des propositions quand vous êtes écarté de l'appareil qui décide ? On a été marqué et M. Perea fait partie... Il est complice de ce déni de démocratie. Ils ont ostracisé Narbonne complètement et la majorité qui a été démocratiquement choisie par les électeurs narbonnais. Ils ont voulu gouverner entre eux. Ils n'ont pas fait de proposition. Aujourd'hui, l'agglomération a fait les fonctions régaliennes qui sont les siennes, mais n'a rien proposé de nouveau, n'a rien apporté au quotidien des habitants de notre territoire. Je trouve extraordinaire que M. Perea reproche aujourd'hui à ceux qui n'ont pas eu cette chance de participer à l'exécutif de n'avoir rien proposé. Nous n'avons pas arrêté de faire des propositions, d'aller de l'avant, d'investir, de proposer. Nous n'avons jamais été suivis dans nos démarches.
Oui, alors là, on est dans un dialogue de sourds, enfin, si je peux parler de dialogue.
Complètement, mais c'est une réalité malheureusement de la sphère politique locale.
Alors donc, on peut espérer que les choses vont changer radicalement. Et alors, vous déclariez à un confrère de la presse écrite, pardon, il n'y a pas très longtemps, Bertrand Malquier, l'agglomération, ça me captive. Donc voilà pourquoi on peut penser que vous serez de toute façon présent d'une façon ou d'une autre.
Je serai présent d'une façon ou d'une autre. On prône avec Didier Mouly pour qu'il y ait une majorité de gestion et pas une majorité politique. Le seul intérêt du territoire doit prévaloir. C'est notre volonté ferme et définitive. Nous nous engagerons sur ce terrain-là. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que les prochaines élections municipales, certaines gouvernances municipales soient amenées à changer. Vous pensez que si telle ville ou tel village devait changer de majorité, nous devions l'écarter sous prétexte que la majorité ne nous plaise pas, que le Front National soit et l'exécutif d'une commune. Il faut raisonner dans une majorité de gestion et prendre l'ensemble des communes avec leurs particularités pour avoir une majorité de gouvernance. Gouvernance, majorité de gestion.
Voilà, mais ça, c'est ce qui est redit à chaque fois. Et dans les faits, on s'est aperçu et on s'aperçoit au quotidien que la politique politicienne revient au galop à chaque jour.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Oui, une remarque, Michel ?
Oui, si je peux intervenir, Jean-Claude. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'indépendamment du débat purement politique, enfin, on ne pourrait pas dire politicien, on ne peut plus concevoir une architecture institutionnelle, en fait, et exécutive à l'agglo où la ville-centre, en fait, et la majorité de l'autre, enfin, la majorité des communes qui petites communes, soient complètement opposées. On ne peut pas créer un mode de gestion, on ne peut pas créer, quelles que soient les oppositions politiques. Un système d'exécution, en fait, au niveau de l'aglo, qui soit dysfonctionnel comme il a été pendant six ans, avec toutes les conséquences, à la fois en termes de pertes fiscales, en termes de projets, en fait, qui ne sont pas conformes, effectivement, à ce que, en tout cas, moi et d'autres pensons, etc., etc. Donc, je dis à Bernard Mazzi, parce qu'il est là et qu'il s'intéresse à l'aglo, je dis, quoi qu'il arrive, de toute façon, il faudra bien en venir là, et si jamais,
il faudra que la raison prévale.
Parce qu'on ne peut pas se permettre, en fait, de repartir encore pour six ans dans ce genre de situation.
On le fera d'autant plus facilement que l'on a été victime de ces choix il y a 6 ans. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité de vos auditeurs l'ont compris. Nous avons été écartés de l'exécutif. Et alors, au début, c'était sous prétexte que l'élection l'élection municipale à Narbonne était contestée par notre opposition. Donc ils estimaient que nous étions en CDD à la mairie de Narbonne. Ensuite, ils auraient pu tout à fait se rattraper en nous proposant d'ouvrir, de participer à cet exécutif. Il y a eu des démissions de vice-présidents par des cumuls de mandats ou par des changements d'orientation. On n'est jamais venu nous proposer une place ne serait-ce qu'une place, ne serait-ce qu'au maire de Narbonne, pour venir s'asseoir à la table de l'exécutif et faire des propositions concrètes. Étant donné que nous avons été victimes de cet ostracisme, nous ne rappiquerons pas ce que nous avons mal vécu pendant 6 ans, et au contraire, nous irons de l'avant, parce que nous sommes positifs, nous sommes pleins d'espoir pour ce territoire, il y a du potentiel, nous avons plein de propositions à formuler, et nous voulons avancer ensemble dans le seul intérêt de notre territoire.
Alors vous aviez dit, Bertrand Malquier, lors de votre dernier passage, si je puis dire, à Radio Barque, que dorénavant, à chaque élection municipale, et notamment à la prochaine, vous feriez une double campagne, c'est-à-dire clairement, voilà ce qu'on fera pour la ville, voilà ce qu'on fera pour la mairie. Est-ce que vous pouvez, dès aujourd'hui, commencer à dévoiler, tout à l'heure vous l'avez fait plus ou moins, dévoiler quelques pistes, de telle façon que vous puissiez dire « Non, je ne suis pas celui qui n'a aucun projet pour l'agglo. »
Alors, voilà, on va être dans le factuel, donc je vais vous donner des exemples. Nous avons travaillé sur un sujet qui nous tient à cœur, c'est la gratuité des transports en commun. Nous voulons que le transport en commun, les déplacements à l'échelle du Grand Narbonne, soient gratuits. Nous l'avons travaillé, nous l'avons budgétisé également. On sait que aujourd'hui les recettes des usagers ne représentent que 10% ce budget.
Donc il y a 90% qui est déjà pris en charge.
Qui est déjà pris en charge par la taxe transport ou par les subventions d'équilibre. Donc ces 10% peuvent être pris en charge par l'agglomération. Ça servira à tous les usagers. Et aujourd'hui, ça se fait. Ça s'est fait à Dunkerque il n'y a pas si longtemps. On veut que ça soit une tête de gondole des propositions faites à l'échelle de l'agglomération. Et tout est lié. Tout à l'heure, je vous parlais de ce centre opérationnel de développement économique où nous voulons véritablement mettre un manager, quelqu'un de compétence qui puisse bien travailler les propositions, se tourner vers l'extérieur, démarcher les entreprises, les faire venir sur notre territoire. Un des arguments que cherchent les entreprises pour s'installer dans le territoire, c'est le coût de l'installation, bien sûr, mais c'est également la proximité de leur clientèle et l'accessibilité pour leurs salariés. Eh bien, c'est un des paramètres qui nous permettent d'avancer positivement dans cette construction du programme.
Ça implique de participer à un certain nombre de salons économiques, ce que la ville de Narbonne avait fait à une certaine époque, je crois.
On l'a fait à l'échelle de la ville de Narbonne en démarchant. On est allé chercher Fnac Connect pour les installer, place de l'Hôtel de Ville. On a cette habitude d'aller démarcher, de faire les salons et de récupérer des entreprises, de leur présenter notre territoire, de leur donner les avantages. L'Arena, on va parler vite fait de l'Arena. L'Arena fait... Un des objectifs de l'Arena, c'est de permettre une offre culturelle la plus large possible sur ce territoire. Je vais reprendre ce que disait le directeur de la Banque de France de l'Aude, monsieur Espinasse. Il disait, voilà, ce qui manque à Narbonne également, c'est des cadres pour impulser dans les entreprises un tremplin nouveau, du recrutement, équiper les entreprises de cadres. Aujourd'hui, que recherchent les cadres? Ils recherchent une vie culturelle en dehors de l'entreprise, ils recherchent nos atouts naturels, la proximité de la plage, des pistes de ski, ce climat agréable, cette ville riche de son histoire, mais ils veulent autre chose. Ils veulent une offre culturelle, un théâtre scène nationale, un aréna avec des concerts, avec des affiches. Il faut savoir attirer les cadres pour développer notre entreprise et ensuite recruter que nos entreprises se développent.
Oui, une remarque alors rapide, puisqu'on va conclure, rapide. Michel.
Une des compétences de l'agglo, c'est une compétence de schéma. C'est-à-dire que l'agglo, en fait, elle propose des grandes stratégies dans les différents domaines qui sont aussi dépendants des communes. En tout cas, elles doivent se plier effectivement à ces schémas. L'habitat, en fait, etc. Oui. Oui. Un des problèmes de ce territoire, c'est l'urbanisation, c'est la périurbanisation, c'est le mitage effectivement de son environnement. Oui. Il y a un SCOT aujourd'hui, un schéma de cohérence territoriale. Voilà, en fait, sur un terrain précis, si je puis dire, et avec un programme en fait précis et un outil précis et une structure précise, l'agglo, les moyens de prendre position claire, en fait, et nette, est-ce qu'on arrête? Oui. Ou non, en fait, la périurbanisation sur ce territoire qui est source de conflits, effectivement, environnementaux, notamment avec les agriculteurs et les vignerons qui voient effectivement leur terrain, en fait, agricole, au fil du temps, disparaître.
Si on laisse pas le temps à monsieur Malquier de répondre, on va conclure là-dessus, Bertrand Malquier. Est-ce que c'est possible pour un président d'agglo éventuellement d'intervenir là-dessus?
Il faut que ce schéma de cohérence territoriale, et c'est le travail qui est fait de toute façon, il faut rationaliser cet étalement urbain. Il faut revenir une densité sur l'existant. Il faut laisser un poumon vert sur notre territoire. C'est ce qui fait notre charme. Il faut arrêter l'étalement urbain. Et le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, est cet outil précieux qui nous permet d'avoir cette échelle, cette règle à l'échelle intercommunale.
Donc, ce qui est... dans ce SCOT, des normes en fait impératives et non pas de vagues.
Donc, ce qui signifie que dorénavant, le SCOT devrait être un petit peu plus la Bible de
l'ensemble des communes de notre territoire.
De l'ensemble des communes. Et que cette Bible sera lue, comprise et respectée.
Au même titre que le programme que nous proposerons au Narbonnais pour la mairie et à l'agglomération pour les habitants du territoire.
Eh bien, merci Bertrand Malquier donc d'être venu à la fois nous parler de la mairie, mais bien entendu de l'agglomération, de la future agglomération, d'en avoir tracé peut-être quelques futurs concours. Notre prochain invité sera Louis Privat, célèbre manager des grands buffets, après quoi nous recevrons Alexandre T, qui est le responsable des vignerons indépendants de l'Aude. Donc nous ferons une petite excursion hors de la politique pendant deux émissions, après quoi nous retrouverons, en revenant dans le vif du sujet, Monsieur Sainte-Cluc et puis Monsieur Mouly un petit peu plus tard. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À bientôt.